Il y a tellement d'infos que je m'y perds.
Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même.
Souvent, je trouve que tout est trop superficiel.
Je pense qu'il y a trop d'infos et...
C'est très angoissant.
La première...
J'ai besoin de repères.
Les clés...
J'ai envie de comprendre.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés, l'émission qui décode l'actualité. Aujourd'hui, on va se demander comment la Chine est parvenue à s'imposer comme un acteur incontournable du marché de la voiture électrique aujourd'hui, au point de mettre en difficulté certains grands constructeurs européens avec les conséquences que l'on sait notamment pour l'usine d'Audi à Forêt. Alors, va-t-on voir demain les voitures électriques chinoises se multiplier sur nos routes? Comment la Chine a-t-elle réussi à prendre tout le monde de vitesse sur ce secteur stratégique pour notre mobilité en transition? Eh bien, on va prendre le temps d'y voir clair.
La première, les clés.
On est député, on comprend plus rien.
Mardi 3 septembre dernier, devant chez Audi Forêt à Bruxelles, l'ambiance est lourde. Car la nouvelle tant redoutée vient de tomber.
Le groupe Volkswagen n'utilisera finalement pas l'usine de Forêt pour aucun de ses modèles, ce qui peut signer la fermeture du site. Un drame pour les syndicats, nous faisons le point.
Depuis longtemps, on était quand même conscient qu'il y avait de grandes difficultés. Mais oui, c'est de nouveau un drame pour Bruxelles.
Du coup, au changement d'équipe suivant l'annonce, les cœurs sont lourds et les paroles désabusées au micro de Jérôme Durand.
On est tous déçus, quoi. On a toujours été de très bons travailleurs. Nous sommes la première usine électrique du groupe et on n'a jamais trouvé des alternatives pour faire d'autres modèles.
Les gens sont vraiment déçus, dégoûtés. Ça se comprend parce que, bon, on nous a fait miroiter pendant 2 ans qu'on allait avoir un modèle, qu'on allait avoir ça et pour finalement, on n'a rien du tout, quoi.
Mais comment expliquer alors cette annonce? Le problème, c'est que l'usine de Forêt ne fabriquait qu'un seul modèle. Un modèle haut de gamme et très cher, dont les ventes reculent. Mais plus globalement, le problème, c'est aussi que la maison mère, Volkswagen, est en difficulté dans un marché automobile en pleine reconfiguration en ce moment, notamment avec l'arrivée des véhicules électriques. Avec, sur le segment électrique en particulier, une nouvelle donne, les constructeurs chinois ne cessent de gagner des parts de marché.
En 2021, la part de marché des véhicules électriques chinois en Europe était de 4%. Elle est passée à 8% en 2023. Elle a donc doublé en l'espace d'à peine 2 ans.
On le constate d'ailleurs dans les pubs qui envahissent les écrans, notamment cet été, à chaque mi-temps de l'Euro de football.
Nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Nous sommes BYD. Build your dreams.
BYD, BYD, trois lettres pour une marque encore inconnue en Europe il y a à peine un an ou deux et qui pourtant est en passe de devenir leader mondial du marché de l'électrique. Et ce n'est pourtant qu'un des nombreux groupes chinois qui est en train de gagner des parts de marché, y compris donc en Europe.
En produisant en masse et avec les conditions sociales de l'empire du milieu, BYD et d'autres fabricants cassent les prix avec comme ambition de s'imposer sur le marché européen.
Face à cela, l'Union européenne a choisi de réagir, suspectant une concurrence déloyale via des aides d'État chinoises. Fin de l'année dernière, Ursula von der Leyen annonçait d'ailleurs l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne.
Je peux donc annoncer aujourd'hui que la Commission lance une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L'Europe est ouverte à la concurrence, pas pour un nivellement par le bas. Nous devons nous défendre contre les pratiques déloyales.
Et au terme de cette enquête, la Commission a décidé d'imposer des taxes allant jusqu'à 48% sur certains modèles fabriqués en Chine, une taxe qui est d'ailleurs dénoncée par certains constructeurs européens qui avaient choisi de délocaliser la production de certains de leurs modèles en Chine. Avec nous en studio pour suivre, Xavier Daff. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du Moniteur Automobile. Alors, on va essayer de repartir de la base avec vous et de comprendre c'est quoi pour vous les principales raisons qui font que, comme on l'a entendu ici, les constructeurs chinois sont en train de s'imposer à ce point aujourd'hui en Europe sur le marché de la voiture électrique avec les conséquences que l'on connaît, y compris chez Audi A4.
Je dirais qu'il s'agit avant tout d'une décision stratégique du gouvernement chinois qui, à un moment donné, s'est ouvert au marché extérieur et a regardé un peu ce qui se passait à l'extérieur en termes d'automobile. En tout cas, ils se sont rendus compte que marcher sur les plates-bandes des constructeurs occidentaux qui maîtrisent la technologie essence, diesel, depuis plus d'un siècle maintenant, c'était sans doute assez illusoire d'aller marcher sur ces plates-bandes-là. Que de l'autre côté, le Japon était passé maître dans l'art de la technologie hybride. Et ils ont vu, je dirais, dans l'électrique, une troisième voie pour développer un secteur industriel naissant, from scratch, de zéro, pratiquement. Et pour la Chine, c'était à ce moment-là, la voiture électrique était plutôt vue comme une opportunité, d'abord, de gagner un marché vierge, d'alimenter son marché intérieur qui partait lui aussi pratiquement de zéro, de dépolluer ses grands centres urbains avec la multiplication des voitures électriques. Et c'était aussi sans doute un moyen de se rendre indépendant d'un point de vue énergétique par rapport aux pays producteurs de pétrole, notamment l'OPEP. Donc on voit que c'est un ensemble de stratégies qui, concomitantes, ont fait que le gouvernement chinois a misé très très tôt sur la voiture électrique en skippant complètement, je dirais, en bypassant tout ce qui est technologie thermique que nous on maîtrise en Europe et aux États-Unis depuis des décennies maintenant.
Donc ils l'ont fait à la fois pour leur marché intérieur et se dire tant qu'à faire de développer notre marché automobile, autant le profiler directement sur l'électrique pour être indépendant. Et puis ils se sont dit c'est pas plus mal si en plus on peut dominer le marché mondial sur ces questions là parce qu'on aura pris de l'avance.
C'est effectivement le cas. Le gouvernement chinois, je dirais, a stimulé l'offre de modèles électriques en subsidiant pas mal de petites start-up qui étaient minuscules à l'époque, qui sont aujourd'hui des groupes mondiaux incontournables. Et la demande, il a mis en place une série d'incitants, je dirais, financiers à l'achat d'une voiture électrique pour la population chinoise. Je pense notamment, par exemple, au fait que il était devenu très difficile ou très coûteux d'obtenir une plaque d'immatriculation en Chine pour un moteur à essence et encore plus diesel. Par contre, si vous achetiez un modèle électrique, il n'y avait plus aucun problème.
Donc on a subventionné à la fois les entreprises qui commençaient à développer ces modèles, mais ces entreprises étaient assurées d'avoir un vrai marché derrière avec beaucoup de consommateurs chinois, d'automobilistes qui allaient acheter ces modèles qui étaient développés.
Donc le gouvernement chinois a misé très tôt sur des petites start-up qui commençaient à maîtriser la technologie électrique et a accepté pendant quelques temps de perdre de l'argent, de ne pas revoir son retour sur investissement dans l'immédiat en misant sur le long terme. Et aujourd'hui, on voit que ce long terme nous a mené dans une dépendance totale, je dirais, de l'Europe et de l'Occident en général par rapport à la Chine sur la voiture électrique, en tout cas, notamment par le fait que la Chine a compris très tôt qu'elle devrait aussi maîtriser toute la chaîne de valeur d'une production de voitures électriques.
Eh bien justement, ça, on va en parler de la chaîne de valeur, de tout ce qu'il y a en amont de la production d'une voiture électrique. Avec un deuxième invité, c'est Philippe Giarot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université de Liège, spécialisé dans les métaux, dans l'exploitation minière. Alors on peut peut-être expliquer ça, le fait d'abord que dans une voiture électrique, il y a pas mal de métaux qui sont utilisés, des métaux qui ne se trouvent pas forcément au coin de la rue. Et c'est un enjeu stratégique aujourd'hui dans le développement de la voiture électrique en Chine et d'ailleurs partout dans le monde.
Oui, tout à fait. Bon, ce qui est emblématique, c'est la batterie. C'est vraiment, je pense, l'élément phare dans lequel on retrouve ces métaux dont on entend parler tout le temps maintenant, lithium, cobalt, manganèse, nickel, etc. C'est le cas aussi des terres rares, mais alors là, c'est dans les moteurs et les rotors des véhicules électriques. C'est aussi le cas de métaux plus communs. L'aluminium, par exemple, est fort utilisé parce qu'on veut alléger les voitures. Donc, on peut dire effectivement qu'une voiture électrique, c'est un assemblage savant d'une multitude de métaux, oui, dont certains sont éminemment stratégiques.
Et la Chine, elle exploite une partie de ces métaux. Elle raffine aussi beaucoup de ces métaux-là. On peut dire qu'aujourd'hui, la Chine, c'est devenu l'acteur mondiale incontournable sur ces ressources minières nécessaires à la fabrication de toute une série d'éléments de la voiture électrique?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une chaîne de valeur qui commence effectivement par la mine ou le recyclage si on a des éléments en fin de vie et qui comprend toute une série de maillons, extraction, affinage, réalisation de matériaux actifs. Alors, géologiquement, la Chine, elle a quand même la main mise sur des très beaux gisements, des très grands gisements. On pense en terre rare à Bayanobo, on pense à l'antimoine, on pense au tungstène. Mais sur certains métaux, comme le lithium, elle n'en produit que 13%. Et là où elle contrôle, c'est au goulot d'étranglement qui est le processing, le raffinage. Et c'est vraiment que là, la Chine a su se positionner avec des capacités en raffinage dans tous ces métaux critiques qui vont bien au-delà de ses capacités d'extraction dans certains cas.
Donc ça, c'est important à bien comprendre. On se dit que si la Chine est un acteur incontournable, c'est parce qu'elle a les métaux sur son sol et les mines et qu'elle les exploite. Pas forcément. Il y a aussi toute une série de métaux qui sont exploités ailleurs qu'en Chine et puis qui repassent par la Chine pour être raffinés et rendus utilisables pour des moteurs, des batteries, etc.
Oui, c'est tout à fait le cas. On peut prendre l'exemple du lithium où la Chine ne contrôle que 13% de l'extraction, par contre 60% de l'affinage et 80% de la production des matériaux actifs et des cathodes. Le lithium, c'est principalement l'Australie, le Chili au niveau de l'extraction, mais c'est vraiment la Chine qui est aux manœuvres dans le goulot d'étranglement.
Et si on regarde ça sur un dézoom historique, j'imagine que c'est quelque chose qui ressort de décisions qui ont été prises déjà il y a longtemps par le gouvernement chinois pour développer à la fois une politique industrielle, pour développer des circuits d'approvisionnement. C'est le fruit, quelque part, d'une stratégie de très long terme, le fait que la Chine se retrouve aujourd'hui dans cette position très avantageuse.
Oui, tout à fait. Ça fait plus de 30 ans qu'ils se sont lancés dans le contrôle de ces chaînes de valeur. Ils ont investi des milliards, des centaines de milliards. Donc, ils ont pris une avance phénoménale sur toutes ces chaînes de valeur. Pendant que l'Occident voyait les mines et les métaux un peu comme une vieille industrie. On était beaucoup plus dans l'industrie de services, la haute technologie et, je vais dire, les activités à haute valeur ajoutée. On ne considérait pas, on ne considérait plus ces métiers comme aussi importants. Ben, on se rend compte que la Chine a pris le lead là-dedans et voilà, ça nous revient un petit peu.
C'est un élément important, effectivement, en même temps qu'un paradoxe. Ces dernières années, en Occident, on a eu un peu tendance à considérer que l'industrie minière, les métaux, était une industrie du passé. Alors précisément que ce qu'on appelle les nouvelles technologies consomment énormément de métaux, une diversité de métaux de plus en plus grande, quasiment tout le tableau de Mendeleïev est utilisé. Et donc, notre révolution technologique repose sur des mines qui sont souvent loin de nos yeux, des mines un peu différentes aussi de celles qu'on a connues chez nous par le passé.
Oui, la mine a évolué, a beaucoup évolué. Je veux dire, ce n'est plus l'image catastrophique qu'on en avait. C'est la sécurité, l'utilisation de véhicules électriques, la planification, la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Tout ça a fait des très, très grands progrès. Mais il n'empêche que extraire, c'est quand même aller dans la terre, creuser un trou et sortir de la matière. Alors on a beau le faire de la manière la plus correcte et avec le plus de garde-fous possible, ça reste, je vais dire, une empreinte qu'on a sur la terre.
Et donc, aujourd'hui, dans l'Europe, dans des pays comme les nôtres, on est peut-être plus près non plus de la même manière à ouvrir le sol pour ça, à développer les industries en aval pour traiter ces métaux-là. Quelque part, la Chine a aussi occupé une place que l'Europe a bien voulu lui laisser occuper.
Oui, dans une certaine mesure, mais il faut aussi dire que l'Europe, via ses sociétés, ses politiques, était quand même présente dans beaucoup de pays hors européens. Or, la Chine, elle a beaucoup travaillé aussi dans ces pays hors européens. Et donc, on était un peu sur les mêmes secteurs, les mêmes géographies. Il se trouve que l'Europe s'est un petit peu désintéressée de ça. Oui, c'est effectif. Maintenant, on voit que les politiques européennes se retournent avec le Critical Raw Material Act pour essayer de faire des choses en Europe, mais aussi avec toute une série d'accords stratégiques avec des pays riches en matières premières, parce qu'on se rend bien compte que ce ne sera pas possible, ou en tout cas très très difficile, de réexploiter toutes ces choses-là sur le sol européen. Et donc on essaye de se remettre à niveau avec une politique relativement à l'approvisionnement en métaux exact.
Xavier Daff, je le rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du Moniteur Automobile. Ce qui est important à préciser, c'est que quand on parle de ces chaînes d'approvisionnement en métaux très importants pour la fabrication de la voiture électrique, ils ne servent pas que les usines chinoises qui fabriquent des voitures chinoises. Aujourd'hui, partout dans le monde et notamment en Europe, quand on construit une voiture électrique, on est dépendant de matériaux qui viennent de Chine ?
Oui, effectivement, il y a une forme d'arrogance quelque part historique de la part des marques occidentales en se disant « Nous, on maîtrise l'essence, le diesel, on va continuer là-dessus et on va pas investir en recherche et développement ou très très peu sur la voiture électrique. » On a laissé le champ libre aux Chinois qui, on vient de le dire, ont très vite compris l'intérêt de se développer stratégiquement dans cette technologie. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que des marques occidentales qui, au départ, n'étaient pas du tout intéressées par l'électrique, aujourd'hui, notamment poussées par la décision de l'Union européenne de 2035, sont obligées de passer à l'électrique. Elles se trouvent un peu démunies. Et donc, elles se tournent vers le marché chinois pour s'approvisionner, notamment, par exemple, en batterie. Aujourd'hui, 60% des batteries de voitures électriques vendues dans le monde sont chinoises. Donc, il y a un quasi-monopole de fait sur la production de batteries à destination des véhicules électriques, en tout cas.
Alors, on va s'intéresser maintenant, pour poursuivre, à ces voitures chinoises qui arrivent sur nos routes, puisqu'il y a les voitures européennes construites avec des composants chinois, mais aussi des voitures maintenant qui sont de marque chinoise, sans qu'on s'en rende d'ailleurs toujours forcément compte. Et ça, vous allez le découvrir avec Sarah Pousset. Quand on regarde les voitures les plus vendues en Europe, les modèles chinois sont présents, plus présents qu'il n'y paraît.
Eh bien, il faut dire que c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Plusieurs constructeurs créent des noms spécifiques pour le marché européen. Le but derrière est souvent de minimiser l'ancrage chinois qui souffre d'une mauvaise image auprès du consommateur européen. Dans le top 10 des ventes de voitures électriques en Europe, on retrouve la MG4, un modèle de la marque historiquement britannique MG Motors. Le constructeur a été racheté en 2007 et fait désormais partie du groupe SAIC pour Shanghai Automotive Industry Corporation. Ce qui est intéressant, c'est que ces modèles se vendent bien en Europe car ils sont associés à l'histoire anglaise. Par contre, ils n'ont pas de succès en Chine car ils sont considérés comme des modèles étrangers. Allez, autre groupe chinois, Geely, qui a lui aussi racheté l'image européenne en intégrant Volvo, Smart et Lotus dans son giron. Sur le volet électrique, le groupe a créé la marque Link & Co, qu'on commence à voir de plus en plus sur nos routes. Et puis bien sûr, ils financent aussi la production des Polestars, mais qui ne sont pas construites en Chine. Enfin, dernier géant chinois, le groupe BYD. Pour l'instant, c'est une marque encore un peu inconnue chez nous, mais ce constructeur s'impose déjà sur le marché. Il a déjà dépassé Tesla en termes de production de voitures électriques. Les pubs de BYD ont notamment été matraquées pendant tout l'Euro de football. Et puis, dernière nouveauté à souligner aussi, des géants de l'électronique comme Huawei ou Xiaomi qui lancent eux aussi leur propre ligne de voitures qu'on pourrait voir apparaître en Europe. Actuellement, parmi les véhicules électriques en circulation, on estime qu'une voiture sur deux se trouve en Chine.
Xavier Daff, vous avez l'occasion de tester, vous, toute une série de voitures du côté du Moniteur Automobile. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les voitures chinoises sur ce segment électrique connaissent un succès grandissant?
Je dirais qu'ils partent de zéro. Moi, je me souviens, je suis là depuis un bout de temps, c'est un peu l'avantage de l'expérience, c'est que les premiers modèles chinois qui ont débarqué en Europe étaient risibles, on va le dire. D'un point de vue design, c'était des pâles copies de ce qui se faisait en Europe. D'un point de vue mécanique, ou en tout cas efficience énergétique, c'était lamentable. Et d'un point de vue sécurité routière, c'était de véritables cercueils roulants. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, on voit les progrès réalisés par ces marques qui ont eu L'avantage, je dirais, ou la bonne idée d'aller débaucher des ingénieurs de très très haut niveau occidentaux. Et donc, ils ont misé très tôt sur la qualité de fabrication, sur le design, en faisant venir des designers occidentaux à la tête de leur grand groupe et des ingénieurs de très très haut niveau. Et donc, aujourd'hui, effectivement, une voiture chinoise, ok, elle n'a pas l'image de marque des premium allemands, comme on entend encore traditionnellement en Europe, mais ce problème-là, il est en train de s'évacuer parce qu'on voit que la nouvelle génération est beaucoup moins attachée à cette notion d'image de marque, en tout cas pour la voiture. Ils achètent des GSM Xiaomi ou Huawei sans aucune difficulté. Donc l'image de marque liée à la voiture, elle est en train de changer. D'autant que la qualité des voitures chinoises aujourd'hui est bien réelle, que ce soit sur toute la maîtrise de la technologie électrique, on l'a dit, mais aussi sur la sécurité, sur l'infodivertissement, tout ce qui est électronique de bord. Le design, aujourd'hui, n'a plus rien de repoussant, bien au contraire. Et tout ça est proposé à des prix généralement largement inférieurs à ce que propose la concurrence occidentale, on va dire, parce qu'il y a les Européens, mais il y a les Américains aussi.
Donc, on a des voitures chinoises aujourd'hui qui sont devenues de bien meilleure qualité qu'avant, qui en plus sont moins chères et pour des consommateurs qui sont moins attachés qu'avant
à
l'image de marque. Du coup, c'est pas facile pour les constructeurs européens de faire face à ces véhicules-là qui débarquent sur le marché.
Non, effectivement, d'autant qu'on les sent un peu démunis. Hein. On l'a dit, ils dépendent de la technologie chinoise pour s'approvisionner en batterie essentiellement. Alors, les choses sont en train de se mettre en place. On voit des usines d'assemblage de batteries qui sont construites en Europe, en France, en Allemagne, etc. Mais tout cela prend énormément de temps. Engloutit énormément d'argent, alors que même que la demande pour la voiture électrique, en tout cas auprès du particulier, tarde à démarrer. Et donc tout ce retour sur investissement qu'attendaient les marques occidentales tarde à venir, ce qui les met, on le voit aujourd'hui, en grande difficulté.
Et c'est ce qui rend la situation délicate. C'est ce qui a conduit aussi à de vives pressions du secteur automobile pour tenter de retarder la stratégie européenne de sortie des moteurs thermiques. Car il semble que le secteur automobile européen a tardé à s'organiser face à l'enjeu de l'électrification, ne voyant pas suffisamment venir l'offre chinoise et sous-estimant sans doute aussi l'enjeu stratégique de l'accès aux matières premières.
Je crois que depuis qu'on a des politiques de libre-échange, depuis une quarantaine d'années, on s'est un petit peu endormi, puisqu'on travaille avec le just-in-time, on a tout au bout des doigts, c'est immédiat, et on a oublié, en fait, d'où viennent toutes ces choses essentielles. C'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus prudent. Maintenant, je pense que il y a une urgence climatique et je pense qu'il faut y répondre aussi, et je pense que c'était un moyen très emblématique et réel, en fait, de faire passer le message et de dire aux gens, voilà, c'est une façon d'aider le climat et d'aller de l'avant, mais c'est pas aussi facile qu'on l'aurait cru, et je pense qu'il y aura une période de transition qui sera beaucoup plus longue, où on aura pendant un certain temps plusieurs types de véhicules qui vont cohabiter et pour arriver sur l'électrique, oui.
Vous avez DAF ?
Dans ce cadre-là, il convient, je pense, de souligner la décision de l'Union européenne de sévériser progressivement les moyennes d'émissions de CO2 des gammes des constructeurs automobiles. Aujourd'hui, la gamme d'un constructeur automobile, en moyenne, ne peut pas dépasser 116 grammes de CO2. Ce sera 94 grammes en 2025 et on vise 50 grammes en 2030. Ça va obliger quoi ? Ça va obliger les constructeurs automobiles européens, en tout cas, à se désintéresser un peu de la voiture thermique pour aller vers la voiture électrique, mais surtout la voiture électrique bon marché, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les constructeurs proposent des voitures électriques très haut de gamme, très peu accessibles, hormis en voiture de société et encore, mais le particulier aujourd'hui, ça reste très difficile pour lui d'acheter une voiture électrique, et on voit que cette sévérisation progressive des émissions moyennes de CO2 par marque automobile va aller, je pense, vers la production de voitures électriques européennes de moins en moins chères. On en voit déjà qui arrivent, hein, la Citroën IC3 pardon, qui est annoncée à moins de 20 000 euros, la Renault R5 E-Tech qui est annoncée à 25 000. Donc on voit que les choses bougent dans le bon sens, enfin, mais je dirais il est temps.
Et est-ce que, en un mot très rapide, Xavier Daff, la taxe européenne maintenant à l'entrée pour justement essayer de rééquilibrer les choses par rapport à ces aides d'État va changer la donne ?
Ben, ça peut être une donnée du problème. On sait que les États-Unis ont instauré une taxe de 100% pour les véhicules électriques en provenance de Chine. Donc ici, on a une taxe modulaire en fonction de savoir si la marque chinoise a collaboré ou pas à l'enquête européenne. Je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il ne faudrait pas que ça crée un retour de manivelle sur d'autres secteurs industriels sur lesquels la Chine pourrait dire bah ok, si c'est comme ça, moi je taxe vos vins, vos spiritueux, chers amis français, et tant pis quoi. Bon, c'est un jeu d'influence, je dirais, pour l'instant, mais je crois que ça va dans le bon sens.
Et sur ce point, il faut noter que la Chine n'a pas seulement pris de l'avance sur la voiture électrique, mais aussi sur toute une série d'autres secteurs industriels, dans la transition, dans les technologies numériques, ce qui en fait un géant très puissant à affronter dans une perspective de guerre commerciale. On retiendra brièvement trois points de cet épisode. Oui, la Chine a pris une avance considérable dans le développement de la voiture électrique, car elle a très vite identifié ce marché porteur, qui lui permet de travailler à son autonomie stratégique en matière d'énergie et de réduire sa dépendance au pétrole, mais qui lui permet aussi de prendre de l'avance sur ce segment de la voiture électrique à l'exportation. Deuxième clé à retenir, la Chine n'est pas seulement leader dans la production de voitures électriques, elle a aussi construit toute une chaîne de valeur depuis la mine jusqu'au consommateur, qui fait qu'aujourd'hui, même les constructeurs européens qui avancent vers l'électrique sont dépendants des matériaux chinois. Enfin, on notera encore que l'Europe s'organise tout doucement pour se défendre, avec des droits de douane décidés par la Commission, avec le développement de filières pour la fabrication de batteries en Europe, mais il ne sera pas simple de rattraper le retard face à la Chine, tant la Chine a pris de l'avance en utilisant notamment massivement les aides d'État. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen, réalisation sonore de cet épisode, Guillaume de Smet. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, à renseigner aussi autour de vous ce nouveau podcast que l'on vous propose. Et si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, lesclés@rtbf.be.